viennent de partout, ils sont de partout, ils sont chez nous. Mais aussi chez eux, parce que certains d'entre eux ont choisi la RDC comme seconde patrie. Ils nous parleront de chez eux en même temps de chez nous.
On les reçoit dans Bapayana Bissau tous les dimanches 18h et mardi 14h sur Buzz FM. Présenté par Ralph Tchoumbé.
Buzz. Bienvenue, chers auditeurs de Buzz FM 97.4. Vous êtes dans Bapayana Bissau, nos visiteurs. Et si je parlais du vieux continent? On dit le vieux continent parce qu'il est vieux en termes d'infrastructure, en termes de développement. Il est vieux en beaucoup de choses. Et aussi, il faudrait dire que ce continent, il a colonisé, ou de par les pays qui le composent, ils ont colonisé plusieurs pays, notamment ici en Afrique. Et donc aujourd'hui, on va parler du continent européen avec le représentant de l'Union européenne en République démocratique du Congo, monsieur Jean-Marc Châtenier, qui nous fait l'honneur de venir dans les studios de Buzz FM pour nous parler de son continent. Aujourd'hui, on le reçoit en tant que notre Mopaya, notre visiteur. Alors, un mot sur l'Europe. L'Europe est considérée politiquement comme un continent ou géographiquement comme une partie des supercontinents de l'Eurasie et de l'Afro-Eurasie. Elle est parfois appelée le vieux continent ou ancien monde par opposition au nouveau monde, l'Amérique. Sur le plan culturel, l'Europe a reçu des multiples influences au cours des âges et comprend des nombreux pays qui possèdent à la fois un héritage commun, des différences linguistiques, religieuses et historiques et des apports récents venus depuis la mondialisation. À ce titre, l'Europe est un espace de civilisation forgé par une histoire millénaire, une communauté des peuples, des différents États, tend à se constituer politiquement avec l'Union européenne. Ses habitants sont des Européens. L'Europe, et plus particulièrement la civilisation gréco-romaine, est le berceau de la civilisation occidentale entre le XVIe siècle et le XXe siècle. Plusieurs nations européennes ont contrôlé et colonisé à plusieurs reprises l'ensemble du continent américain, la quasi-totalité de l'Afrique, l'Océanie et des grandes parties de l'Asie. L'Europe est également à l'origine des plusieurs bouleversements historiques majeurs comme la Renaissance, les grandes découvertes, les siècles de lumière, la révolution industrielle ou les guerres mondiales. Voilà un mot pour l'Europe. Comme je le disais, chers auditeurs de Buzz FM dans Bapayana Bissau, nous recevons monsieur Jean-Marc Châtenier, à qui je dis bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très honorés par votre présence ici.
Merci beaucoup.
Ok, alors, généralement, dans ma Bapayana Bissau, il y a une question que je pose à tous nos invités. C'est la première, d'ailleurs. Nous sommes heureux de vous recevoir ici en RDC. La question est celle de savoir pourquoi vous êtes en RDC.
Alors, pourquoi je suis en RDC, hein? C'est une longue question et une longue histoire. Je vais peut-être commencer à vous la raconter. D'abord, je voulais vous dire, effectivement, je suis européen, je suis français, je suis normand et j'ai quelques racines bretonnes et auvergnates. Et puis, je voulais vous dire aussi, par rapport à tout ce que vous avez dit, je suis africain parce que mes ancêtres viennent d'Afrique.
Okay.
Ils étaient ici il y a 200 000 ans. Ils viennent du sud de l'Afrique, d'Afrique du Sud, du désert du Kalahari.
Okay.
Et nous sommes tous africains. Donc, je ne sais pas qui a colonisé l'autre, mais nous avons tous colonisé la Terre et nous sommes tous des peuples qui peuplons ensemble cette Terre. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ben, je suis européen et représentant de l'Union européenne ici à Kinshasa. Alors, pourquoi en RDC? Alors, parce que plusieurs choses. Hein. D'abord, parce que c'est mon métier. J'ai choisi il y a maintenant 30 ans. Ça fait très longtemps.
30 ans de carrière.
30 ans de carrière, le métier diplomatique, la carrière diplomatique. Pas forcément quelque chose que je voulais faire quand j'étais petit ou quand j'étais lycéen ou quand j'étais à l'école. Je rêvais d'être journaliste.
Waouh!
Et
donc,
voilà.
Ça allait être vous qui allez être en face de
et
nous.
J'aurais dû être en face de vous, je ne comprends pas. Voilà, je rêvais d'être journaliste. Ensuite, je rêvais de faire un petit peu de politique parce que je voulais faire un petit peu du bien aux autres.
Ouais.
Et puis, finalement, j'ai fait une école qui s'appelle Sciences Po Bordeaux, à Bordeaux, en Aquitaine. Et puis, j'ai fait en France ce qu'on appelle l'École nationale d'administration. Et là, je suis entré dans la carrière de la coopération, du développement et des affaires étrangères.
Ok.
Je me rappellerai tout le temps parce que j'ai fait mon service militaire, mon service national. J'avais un commandant de bateau, c'était une frégate, on était sur le Pacifique. Et il me disait, mais Jean-Marc, qu'allez donc vous faire aux affaires étranges? Voilà, les affaires étranges, les affaires étrangères,
okay.
Les affaires étrangères, voilà, la diplomatie.
Ouais.
ce métier de la diplomatie, c'est un métier pour moi inspirant. C'est un petit peu la vocation de ma vie, de ma carrière, ce que j'ai envie de faire, ce à quoi je me suis un petit peu consacré.
Okay.
Parce que pour moi, c'est un métier de dialogue, de discussion, de communication,
d'échange,
ouais. De mettre en paix les uns et les autres, de ramener la paix. Et voilà, et donc c'est cette fonction, je dirais, d'intermédiation, parfois de confesseur, cette fonction un petit peu presque religieuse, presque solennelle du diplomate, ça m'a toujours enthousiasmé. Alors maintenant, je vous ai dit pourquoi j'étais européen, pourquoi j'étais diplomate.
Ouais.
Alors pourquoi la RDC ?
Pourquoi la RDC ?
Ben, la RDC, ça fait longtemps. D'abord, j'ai fait toute ma carrière diplomatique et de coopération sur les questions africaines et de développement. C'est quelque chose qui m'a bercé depuis que j'ai commencé ma carrière diplomatique.
Ouais.
J'ai commencé à travailler au Niger, au Tchad. J'ai été en poste en Côte d'Ivoire, à Abidjan, une très belle
ville. Le tour d'Afrique pratiquement.
On dit que c'est la sœur jumelle pratiquement de Kinshasa.
Okay.
J'ai été ensuite à New York, aux Nations Unies, enfin pour représenter la France. Et à l'époque, c'était pour travailler auprès du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le Développement, au Conseil d'administration, de l'UNICEF, du PNUD, du Fonds des Nations Unies pour la Population.
Ouais.
Et puis, j'ai beaucoup travaillé avec des amis africains à ce moment-là, puisqu'il y avait beaucoup de questions de coopération et de développement. Et beaucoup travaillé ensuite. Je me suis occupé au Conseil de sécurité, des affaires africaines au Conseil de sécurité. Et pour la France. Et là, il y a eu une grosse crise dont vous vous rappelez tous, malheureusement, en RDC, c'est les guerres de 1996, 97, 98,
okay.
90. 96, 97, 98, pour parler correctement non, ici.
Non, on a les Français des belles ici chez nous. 98,
donc 97. Je dis les deux. Voilà, et donc j'ai commencé à avoir un ami congolais qui est très très proche, qui est d'ailleurs devenu mon parrain de mariage. Et nous sommes, voilà, donc...
Excusez-moi, c'est quand même intéressant, vous avez un parrain congolais.
Oui.
Oh, ça c'est
oui.
Bien ça.
Voilà, un très très grand ami. Et avec qui j'ai beaucoup travaillé, donc je peux dire son nom, c'est Christian Ileka. Il était jusqu'à quelques semaines secrétaire général au ministère des Affaires étrangères. Et je l'ai connu comme chargé d'affaires, puis ambassadeur de la République démocratique du Congo à New York. Donc New York, et puis Paris, et puis j'ai été ambassadeur de la France à Madagascar.
Okay.
J'ai travaillé aussi pour l'Agence française de développement, pour l'Institut de recherche pour le développement. Question de développement qui me passionne aussi depuis toujours. J'ai été ambassadeur de la France pour le Sahel, donc Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanie, Tchad, voilà, avec un enjeu très fort de stabilisation, de paix que nous voulons ramener au Sahel pour la France et pour l'Europe. Et puis la RDC. La RDC qui était vraiment un grand choix parce que j'ai candidaté. Alors il y a deux choix là que j'ai fait l'an dernier. Le premier choix, c'est celui de l'Europe. Je voulais travailler pour l'Europe parce que je suis un Européen convaincu. Je crois à l'idée européenne. Vous avez des grands leaders africains qui croient à l'idée africaine, qui croient au panafricanisme.
Voilà.
Moi, je crois au pan-européisme et je crois à l'idée européenne. Je crois que notre identité, notre culture, ce que nous sommes, notre ouverture au monde... ne pourront pas exister si nous ne nous mettons pas ensemble et si nous ne défendons pas ensemble nos valeurs.
Okay.
De la même façon, je crois que les Africains doivent avoir la même démarche parce que pour se faire écouter, il faut se mettre ensemble.
Défendre ses valeurs.
Il faut se réunir pour défendre ses valeurs.
Okay.
On est toujours plus fort quand on est en équipe. Donc voilà, donc ça c'était mon animation, mon cœur, c'est voilà, l'Europe. Et puis la RDC parce que j'avais déjà... travaillé sur l'Afrique beaucoup,
okay.
Et sur les questions de développement. J'avais eu la chance de venir en RDC à deux reprises, en 2003 et en 2013. Et le pays m'attirait, me fascinait. La culture, son côté grand.
Okay.
Son côté chaleureux et son côté aussi, ben, on en parlera tout à l'heure, il y a la musique, il y a la culture, il y a les arts, il y a l'animation politique, il y a vraiment une vie extraordinaire en République démocratique du Congo, une histoire aussi qui est très très forte. Et j'avais été dans deux autres grands pays, vraiment en poste, je vous l'ai dit tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, ouais. Qui est aussi un grand pays d'Afrique de l'Ouest, et à Madagascar, dans l'océan Indien. Et quelque part, je crois que cette dimension, cette chaleur, ce cœur de l'Afrique, je voulais aussi le rencontrer et le connaître. Et l'apprécier.
Ok, voilà. Alors moi, j'aimerais quand même que nous puissions revenir sur votre intégration, si on doit parler de ça. Vous êtes arrivé au mois de septembre 2019 en RDC. Alors, avant de parler de votre intégration, quelle impression vous avez eue en arrivant ? Je sais que vous étiez là en 2003, en 2013, et en venant.
Alors, en venant, ce qui m'a frappé à Kinshasa... c'est l'effervescence, okay. C'est l'animation, c'est la vie de la rue. C'est quelque chose, cette ville est extrêmement vivante.
Okay.
Elle est abîmée par certains côtés, mais ce n'est pas la première chose qui m'a frappé.
Okay.
Y a certains problèmes de gestion, d'assainissement, des ordures ménagères, mais ce n'est pas ça qui m'a frappé. Ce qui m'a frappé d'abord, c'est la vie qui animait cette ville et cette jeunesse aussi qui est là, qui est présente, ça m'a vraiment tout de suite frappé. Peut-être plus qu'en 2013 ou en 2003.
Okay.
Vie, effervescence, dynamisme,
voilà.
Jeunesse.
Ok. Alors, en 2003-2013, vous n'avez pas vécu et vous n'avez pas vécu longtemps. Vous repartez.
Non, j'étais passé en mission.
En mission.
C'était vraiment des passages très rapides.
Et maintenant que vous avez vécu ici, ça va faire 4 mois, c'est ça ? 5
6
mois.
6 mois. 6 mois.
Bah, c'est quand même beaucoup. Comment vous avez vécu vos premiers moments ici, votre intégration ? Parlez-nous de ça.
Alors, mon intégration. D'abord, j'ai découvert, mais je le savais, que j'allais découvrir autre chose que Kinshasa.
Okay.
Parce que je ne connaissais que Kinshasa. Et c'est comme quand on ne connaît que Paris, on ne connaît pas la France.
On ne connaît pas la France, pas du tout.
Donc voilà. Donc déjà, la chance extraordinaire que j'ai eue depuis mon arrivée ici en RDC, c'est depuis 6 mois, la possibilité de voyager dans toute la RDC. Et j'ai eu la possibilité de me rendre dans des endroits, je pense, où peu de gens se sont rendus, en tout cas parmi les étrangers.
Okay.
J'ai découvert notamment cette magnifique province dans le Kasaï du Sankuru.
Okay.
J'ai été à Lodja, j'ai été
à Kolé. La province de Lumumba.
La province de Lumumba,
voilà.
Oui. Oui, non, c'était par certains côtés émouvant.
Okay.
Découvrir cette province, sa chaleur, ses habitants et son abonnement, pas son abandon, mais son isolement.
Okay.
Par rapport à ce que connaît le Congo et son éloignement. Et rencontrer là des gens dévoués, enthousiastes, qui veulent faire aussi bouger les choses, ça m'a vraiment frappé.
Okay.
Donc cette magnifique province du Sankuru, j'en suis tombé un peu amoureux. C'est pas exactement la même chose que Kinshasa, mais c'est très complémentaire.
Okay.
Ensuite, j'ai été en vacances. J'ai profité des vacances de Noël pour descendre dans le Congo central, pour aller à Matadi,
okay.
Pour aller à Mwanda. J'ai découvert là des richesses naturelles extraordinaires de l'embouchure du fleuve Congo,
okay.
Qui est le parc des mangroves. Et là aussi, ça a été assez extraordinaire comme découverte, comme éloignement avec ce parc naturel extraordinaire. Ces tortues qui viennent pondre sur les plages de Mwanda et ces petites tortues qui repartent à la mer et qui vont loin, qui vont en Amérique, hein, qui vont dans les Caraïbes et qui reviennent pour les femelles. Elles reviennent 7 ans après, elles reviennent pondre sur les mêmes plages ici à Mwanda, au Congo central. Et ça, il y a quelque chose d'un petit peu magique. Et j'ai aussi admiré le travail d'ailleurs des gardes de l'ICCN, de l'Institut congolais pour la conservation
de la nature, oui.
Qui font un travail extraordinaire. Et wow. Que j'ai retrouvé encore, parce que j'ai encore eu la chance d'aller notamment dans le Kivu, dans le Nord Kivu, à Goma,
okay.
Il y a une dizaine de jours pour le festival Amani, festival
voilà.
De musique Amani. Et là, donc, j'ai découvert Goma, qui est aussi une ville en pleine expansion, en plein développement, avec plein d'activités. Et puis de découvrir le magnifique parc naturel d'Evirunga, qui est aussi exploité par l'ICCN et qui est un trésor, un joyau extraordinaire du Congo.
Je me rends compte qu'il faudra carrément une émission pour parler de votre découverte en République démocratique
oui,
du Congo.
Oui, même une série d'émissions. Je suis prêt à en faire une. Et sur toutes les provinces de la RDC quand je les aurai toutes visitées.
Voilà. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans Bapayana Bissau, c'est aussi de la musique. Alors, quelle musique vous nous proposez en premier ? Quelle musique vous nous faites découvrir de l'Europe ?
Alors, sur les musiques de l'Europe, je ne sais pas. Moi, j'ai... Je suis un peu bercé dans ma jeunesse par des chanteurs à paroles, des chanteurs à texte, des gens comme bien sûr Édith Piaf, comme Dalida, comme Aznavour, comme Daniel Balavoine, comme Georges Brassens, la chanson Gare aux Gorilles.
Mais vous choisissez laquelle, parce que là on aura quand même du mal à faire le choix. Vous nous proposez quelle chanson en premier?
Alors une chanson un petit peu subversive, allez, je pars pour Gare aux Gorilles de Georges Brassens.
Buzz FM, la radio bonne humeur. 97.4.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare aux gorilles. Tout à coup la prison bien close, où vivait le bel animal, s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage, dit c'est aujourd'hui que je le perds, il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère, Gare aux gorilles. Patron de la ménagerie, grille était perdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fife des deux fuseaux. Gare aux gorilles. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Gare aux gorilles. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du singe en rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare aux gorilles. Bah, soupirait la centenaire qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense c'est impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Gare aux gorilles. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Gare aux gorilles. Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Gare aux gorilles. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Gare aux gorilles.
Buzz FM, la radio bonne humeur. 97.4.
Georges Brassens de Gare aux gorilles de Georges Brassens, nous proposé par Monsieur Châtaignier. Alors, avant d'aller en musique, on était en train de parler de votre découverte en République démocratique du Congo. Moi, j'aimerais aussi parler d'autre chose, cette fois-ci de la cuisine européenne. Mais avant de l'aborder, j'aimerais quand même savoir si vous avez eu l'opportunité de goûter à notre cuisine ici en RDC.
Alors oui, bien sûr, j'ai eu l'occasion d'abord lors de mes voyages de goûter et d'apprécier la cuisine congolaise. Moi, je voudrais vous citer peut-être deux plats que mon cuisinier m'a fait. C'est pas moi qui les ai faits.
Évidemment.
Peut-être si vous parlez de cuisine européenne, après je vous dirai ce que je fais, mes spécialités. J'ai apprécié beaucoup le poulet namwamba.
Poulet namwamba,
ouais, okay. Qui est une excellente recette.
Okay.
Et encore plus parce que je suis vraiment un fan de poisson. Et C'est le, bien sûr le liboquet de poisson, le liboquet Yambissi.
Ok.
Donc qui est vraiment Yambissi. Pour moi, c'est vraiment magique.
Okay.
Bien sûr, avec tous les ingrédients qui vont avec, le makemba, les bananes plantain, le kwanga. J'aime la cuisine congolaise.
Non, mais ça fait plaisir de vous entendre parler.
Et j'aime, j'espère. non, mais j'aime les découvertes de la cuisine congolaise et puis aussi les variations qu'il peut y avoir autour de cette cuisine.
Ok, voilà. Alors moi, j'aimerais revenir sur la cuisine de l'Europe de manière générale. Mmh. Comme vous êtes représentant de ce continent, je crois que sur le plan culinaire aussi, vous allez représenter votre continent. Comment vous nous présentez cette cuisine ?
Alors, extraordinairement variée. On a l'habitude de parler en Europe de « nous sommes unis, bien sûr, c'est l'unité oui. », mais dans la diversité et dans le respect de nos diversités et de nos cultures réciproques.
Okay.
Moi, je suis originaire, je vous ai dit tout à l'heure, d'une région, la Normandie, qui est une région de cuisine, je ne voudrais pas dire lourde, mais bien costaud. C'est de la cuisine au beurre, c'est de la cuisine à la crème. Voilà, mais les sols à la crème, il n'y a absolument rien de plus magique que des très bonnes sols à la crème. Hein, donc, je ne dénie pas.
Okay.
Mais l'Europe, justement, c'est aussi la possibilité de découvrir d'autres cultures, d'autres goûts.
Okay.
Nous avons des cuisines méditerranéennes. Je pense à la cuisine espagnole, avec le gazpacho, avec
expliquez,
les tapas.
Non, quand vous dites comme ça, là, on est perdu. Vous pouvez détailler. Le gazpacho, c'est quoi ? C'est fait à base de quoi ?
C'est fait à base de tomates. Vous ne connaissez pas le gazpacho ? C'est une salade de tomates froides. Qui est absolument extraordinaire et délicieuse.
Bon, pour permettre aux auditeurs de se retrouver.
Voilà, oui, bien sûr. Mais évidemment, c'est ma passion européenne et nos produits européens qui sont tellement magiques. Bien sûr, toute la cuisine italienne, les pizzas
les
pâtes italiennes, la cuisine à l'huile d'olive qui est absolument magique aussi. Donc, qui est un peu l'opposé, parce que ce sont des cultures très différentes.
Okay.
La culture de Normandie et du nord de la France et du nord de l'Europe, la cuisine au beurre et la cuisine à l'huile d'olive du sud. Et donc, ça produit des enchantements et des goûts, des festivals de goûts totalement différents. Alors, je vous le disais moi aussi tout à l'heure, d'ailleurs, j'aime aussi beaucoup cuisiner. J'aime beaucoup cuisiner l'eau.
Alors là, c'est intéressant. Et surtout que vous êtes français, il faut le dire, les Français sont très, très forts en termes de gastronomie, il faut le dire. Je crois qu'on va revenir également sur les plats français.
Alors, sur les plats français, moi, ce que je vous disais à l'instant, j'adore cuisiner des plats de poisson. J'aime cuisiner certains plats en sauce, comme le lapin, qui peut se cuisiner vraiment le civet de lapin qui peut être délicieux. Voilà, les sols dont je vous parlais tout à l'heure que j'apprécie particulièrement. Il y a des très bonnes sols également aussi qu'on peut acheter et cuisiner ici au Congo. Et donc c'est des très 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 bons poissons. Donc voilà, alors pour la cuisine française, effectivement, vous avez une magie possible de composition, de variation entre des cuisines traditionnelles qui nous rappellent les cuisines de nos grands-mères.
Moi, j'aimerais quand même revenir. Est-ce qu'elles ont toujours place aujourd'hui, les cuisines traditionnelles ? Est-ce qu'elles sont toujours mangées aujourd'hui ?
Oui. C'est un petit peu comme la musique. En fait, ce sont des petits escaliers ou des petites étapes supplémentaires.
Oui.
Les nouvelles découvertes, la nouvelle cuisine, ou même des cuisines plus simples.
Okay.
Parfois, on parle de la cuisine rapide.
Les fast-food. Okay.
Voilà.
Qui prend de plus en plus place.
Elles prennent de la place, mais elles ne remplacent pas.
Okay.
Et si vous regardez les produits que font des grandes chaînes, je ne citerai pas les noms.
Évidemment,
des grandes
pas
chaînes,
du tout.
Je ne ferai aucune publicité. voilà, mais certaines grandes chaînes de cuisine rapide, de fast-food, vous voyez qu'en France, elles proposent des plats qui sont différents de des plats qu'ils proposent aux États-Unis.
Ok. C'est typiquement français.
Parce qu'ils mettent des goûts français, des éléments français, des éléments de cuisine française dedans.
Okay.
Et puis, ils sont toujours à la recherche quand même de la petite touche, de la petite nuance française. Ils vont ajouter des produits. Et alors, la cuisine française est aussi magique. Et la cuisine européenne est aussi magique parce que c'est une cuisine, comme pour le reste, c'est une cuisine d'accueil. C'est une cuisine d'ouverture.
Okay.
C'est une cuisine qui accueille beaucoup d'autres traditions culinaires. Nous avons une très grande cuisine japonaise présente en France. Nous avons la cuisine chinoise, la cuisine coréenne. Donc nous avons ce mélange de cuisine qui se fabrique, avec même des chefs qui vont chercher des compositions entre le français et le japonais, et qui entre sont, le français et le chinois.
Qui sont mangés par les Français eux-mêmes.
Et qui sont mangés par les Français, bien entendu.
C'est intéressant.
Oui. Et c'est pour ça aussi que moi, je serais fan. Il y a déjà beaucoup de restaurants africains en France, mais encore de plus d'exploration et de découverte de plats africains pour les mettre à la sauce européenne.
Okay. Moi, j'allais quand même revenir sur ça. Vous avez parlé tout à l'heure des plats congolais. Vous les mangez occasionnellement ou bien vous rentrez pleinement dans la cuisine congolaise?
Écoutez, occasionnellement, pas parce que je suis représentant de l'Union européenne, donc je dois servir dans ma résidence, en particulier des plats qui reflètent plutôt justement nos cultures européennes.
Okay.
Mais nous sommes ouverts. Enfin, vraiment, je pense qu'il faut faire des mélanges, ouvertures, faire goûter les différents plats. Et ça, c'est vraiment l'éveil des sens.
Ok, voilà. On va encore aller en musique. Alors, vous nous proposez cette fois-ci quelle chanson? Vous nous faites découvrir quel artiste?
Alors, quel artiste? Est-ce qu'on peut avoir un artiste congolais avec Papa Wemba? Et avec une chanson qui serait peut-être pas mal, qu'il avait interprétée en duo avec la malienne Nana Kouyaté, qui est Africain comme toi.
Africain comme toi de Papa Wemba.
Buzz FM, la radio bonne humeur. 97.4. Elena
Soro et Valina berceau de l'humanité. Tu n'as pas à te présenter, oh oh. Juste ta couleur identifie ta source. Continue qui t'a fait un papa, sa bisonne et gosa. Ma belle qui t'a compagnie, sa bayoka papa. Mande que y a la guignasse et maman bayama. Ma bisse à bitino, la bitino. En Afrique, tu li à tous ou à ma casse, ma yale ou y'a pas le cas de ton bala, mais combat de la haut, ma belle et sa combat à pessa, bisra,
tôt ou tard, l'Afrique s'éveillera. Parole de Jules Chobo et Badio, Africain comme toi.
FM, la radio bonne humeur. 97.4.
Voilà, un Africain de Papa Wemba, nous proposé par Monsieur Châtaignier. Alors, Monsieur Châtaignier va nous faire découvrir l'Europe. Vous savez, hors micro, j'étais en train de lui dire, en Afrique, on connaît de l'Europe, on connaît l'Atonium de Belgique, on connaît la Tour Eiffel, on connaît Versailles, on connaît les Champs-Élysées. Monsieur Chataigny va nous faire découvrir des sites européens emblématiques que l'on ne connaît pas beaucoup en Afrique.
Ah, je ne sais pas si vous les connaissez pas, je n'aurais pas cette prétention.
Pas beaucoup, voilà.
Pas beaucoup, un petit peu moins peut-être. Oui, je pense que je ne voudrais pas uniquement parler des sites français
européens,
que je connais, mais vraiment des sites européens, parce que ici je suis représentant de l'Europe.
Okay.
Et je crois qu'il y a des villes magiques. Alors, d'abord l'Italie, qui est absolument splendide à visiter, Rome, le Colisée, la tour de Pise, vous savez, qui penche, mais qui ne chute pas et qu'on a réussi à consolider et qui est absolument... absolument magique.
Ouais.
Et puis dans cette Europe latine, bien sûr, nous avons la Grèce et toute cette magie du Parthénon, des temples grecs que je vous invite à aller visiter parce que là, la mer Méditerranée, le mariage magique de la mer Méditerranée et de ces temples anciens qui datent de 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans,
ouais,
est aussi quelque chose d'absolument magique et de fort. Nous avons aussi, bien sûr, en Allemagne, un certain nombre de... Alors, il y a bien sûr les monuments anciens, mais il y a aussi les monuments qui ont chuté. Alors, un symbole de l'ouverture de l'Europe, c'est la chute du mur de Berlin.
La chute du mur de Berlin,
et la fin du mur de Berlin.
Ouais.
Et aller voir à Berlin les restes, les deux, trois petits restes de ce mur de Berlin qui divisait complètement les deux peuples, le peuple allemand en deux, qui le coupait et pendant 50 ans, les gens ne pouvaient pas se voir.
L'Allemagne de l'Est, voilà.
L'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest.
De l'Ouest, oui.
Et maintenant, la réunification de ces deux Allemagnes, la porte de Brandebourg, qui est absolument splendide et magnifique, et voir donc qu'on est capable de s'ouvrir à nouveau. Bien sûr, je ne pourrais pas ne pas citer Amsterdam, aux Pays-Bas, qui est une ville à découvrir avec ses canaux. En Belgique, on parlait de Bruxelles, mais il faut aller à Bruges, voir aussi les canaux et la magie de ces rues anciennes, de ces villes médiévales, où on se retrouve dans des impressions, je pense, de siècles derniers. À Londres, Big Ben, puis voilà. Mais il y a tant d'endroits tellement magiques, alors de ces monuments que je viens de vous citer, que vous avez vous-même cité bien sûr pour les monuments français, mais il y a aussi des spectacles naturels absolument extraordinaires, et des paysages, des variétés de paysages absolument extraordinaires. Et ce qui m'a épaté, je vais vous dire, puisque on parle de l'Europe, mais je vous parle aussi de la RDC.
Oui.
Ce qui m'a épaté, c'est quand j'ai été dans le parc national des Virunga, et c'est de voir aussi l'extraordinaire variété des paysages. En 100 km, donc dans le parc national des Virunga, il y a un endroit dans la région de Rimli et au bord du lac Édouard, où vous avez une zone tropicale sèche, où vous avez les éléphants, où vous avez les hippopotames, et donc c'est du tropical sec et une végétation sèche. Et puis 100 km, vous faites juste 100 km, vous arrivez dans la montagne, dans les volcans, et vous êtes dans un paysage quasiment suisse. Et là, vous retrouvez nos amis les gorilles. Et donc, vous avez des variations de paysages qu'on retrouve aussi en Europe. En France, en Espagne, au Portugal, en Irlande, les fjords du nord de l'Europe, de la Suède, de la Norvège, qui est géographiquement dans l'Europe, tout ça, c'est absolument magique.
Oui, mais je me rends compte qu'il faut encore une émission pour nous parler de tous ces sites, les rentrer en détail. Chers auditeurs de Buzz FM 97.4, vous suivez Bapayana Bisso, nos visiteurs en français. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Chataigny, représentant de l'Union européenne, qui nous présente l'Europe, qui nous fait découvrir l'Europe. Moi, j'allais quand même revenir aussi sur ça, en parlant d'Europe, monsieur Chataigny, c'est quand même c'est cette force culturelle. Tout à l'heure, en parlant de l'Europe, vous étiez en train de parler des valeurs de l'Europe. Vous pouvez nous parler des valeurs de l'Europe aujourd'hui?
Alors, les valeurs de l'Europe aujourd'hui, elles ont été construites autour de la construction que nous avons fait de notre Union européenne depuis 1945, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Ouais.
L'Europe, vous savez, pendant des siècles et des siècles, ça a été un champ de ruines, ça a été un champ de conflits. Ça a été des nations, des puissances qui se battaient entre elles, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, où chacun cherchait à dominer l'autre. Chacun cherchait à avoir la puissance par rapport à l'autre.
Ouais.
Nous avons eu des grands guerriers, des grands conquérants, des gens comme Napoléon Ier, Napoléon III, Bismarck, et des ambitions territoriales, des ambitions de guerre. Et puis en 1945, on s'est rendu compte que tout ça n'avait mené nulle part. n'avait mené qu'à des désastres, avait mené à la Seconde Guerre mondiale, avait mené à la disparition de dizaines de millions de personnes, à l'holocauste de 6 millions de juifs. Et donc ça, c'était absolument épouvantable. Et un certain nombre de pères fondateurs de l'Europe en 1945-1950 ont dit « plus jamais ça ». C'est pas possible. On ne peut plus admettre ça. On ne peut plus admettre cette guerre. On ne peut plus admettre cette violence. Et des gens comme Jean Monnet et d'autres comme Schumann se sont levés et ont dit ben, il faut trouver un autre chemin, une autre voie. Et il faut que nous nous réconcilions, nous, Européens, entre nous, et que nous bâtissions ensemble une maison européenne. Alors nous sommes différents, nous parlons des langues différentes, nous avons peut-être des valeurs familiales différentes, nous avons des religions différentes, nous ne sommes pas forcément d'accord sur tout, mais nous nous mettons d'accord d'abord pour ne plus jamais faire la guerre et ensuite pour bâtir un espace de prospérité économique ensemble et puis ensuite peut-être aller un petit peu plus loin dans les valeurs et dans les cultures. Ouais. Et ce qu'il y a aussi, donc à partir de là, il y a eu des images très fortes. Alors, une image que moi je n'ai pas parce que j'étais trop jeune, je n'étais pas encore né, c'était la rencontre entre le chancelier, donc celui qui dirigeait l'Allemagne, le chancelier Adenauer et le général de Gaulle en France. Et cette image, cette rencontre, je crois, en 1963, des deux hommes et de l'amitié franco-allemande. Et puis l'image que j'ai, parce que là, j'étais beaucoup plus grand, mais la même image et qui a été très forte à la fin des années 1980, avec justement la chute du mur de Berlin et l'amitié franco-allemande, c'était l'amitié entre Helmut Kohl et François Mitterrand. Et ces deux hommes ensemble, acceptant de tourner le passé et disant « nous allons construire ensemble l'avenir ». Sur des valeurs, alors des valeurs d'ouverture, des valeurs démocratiques, d'acceptation les uns des autres, d'acceptation de nos différences pour essayer de construire une unité. Là, voilà, donc c'est ça, je pense que c'est ça nos valeurs, des valeurs de paix, des valeurs de démocratie, des valeurs de liberté, des valeurs de respect des valeurs des individus, des libertés individuelles. Et donc ça, pour moi, c'est extrêmement fort. Alors, je ne veux pas être non plus naïf. Je sais que c'est compliqué. Ce n'est pas un monde idéal non plus, l'Europe. L'Europe, elle a aussi ses problèmes. Nous avons nos problèmes économiques. Nous avons des problèmes de chômage. Nous avons des problèmes de relations entre nos différents peuples. Le Royaume-Uni, après, a décidé de sortir de l'Union européenne, oui. A fait le Brexit. Nous avons des mouvements nationalistes qui sont revenus, des gens qui se disent ben, « l'Europe, ça ne nous sert pas à grand-chose, ce sont des règles bureaucratiques ». Je crois qu'ils confondent tout, ils mélangent tout, ils disent « c'est la faute à Bruxelles », parce que Bruxelles, c'est là où se trouvent les institutions européennes. Oui. On dit « c'est la faute à Bruxelles », mais en fait, ce n'est pas la faute à Bruxelles, ce sont tous les gouvernements européens qui se sont mis ensemble pour se mettre d'accord pour faire certaines choses. La bataille, enfin, ou le combat, ou la lutte que nous devons mener, c'est d'expliquer que, comme je vous le disais tout à l'heure, pour l'Afrique, c'est aussi vrai, nous sommes tous beaucoup plus forts ensemble. Si nous sommes ensemble, nous arrivons à avoir du poids. Que représente la France toute seule, ou la Belgique toute seule, ou la Finlande toute seule ? Face aux États-Unis, face à la Chine, quel poids de négociation face à M. Donald Trump ? Aucun. Donc, si nous voulons négocier, si nous voulons être forts, nous devons rester ensemble. Et c'est pour ça d'ailleurs que des gens comme M. Donald Trump, le président des États-Unis, n'aiment pas l'Europe, parce qu'ils disent « ensemble, vous êtes trop forts ». Et voilà. Et donc, moi, je crois fondamentalement à cette idée pan-européenne, dans lequel nous pouvons vraiment totalement exprimer voilà, ce que nous représentons, notre force, et faire entendre notre voix dans le monde avec des valeurs, je crois, que nous partageons aussi avec les pays africains, avec l'Afrique. Et c'est aussi pour ça que l'Europe aimerait beaucoup que l'Afrique s'organise encore plus, que l'Union africaine soit encore une organisation plus forte et que nous ayons vraiment un partenaire européen. Pour être ensemble justement face à d'autres grandes puissances, la Chine, la Russie, les États-Unis, et faire entendre notre voix qui est différente de celle des autres.
Voilà, je crois que c'est vraiment, c'est encore une autre émission sur laquelle il faudrait réfléchir. Nous sommes à la fin de Bapayana Bissau, c'est vite passé. Oui, Donc, franchement.
On est déjà à la fin, non bon, c'est pas possible.
Je vous dis, franchement.
Je n'ai rien pu dire.
je crois qu'il faut un deuxième numéro carrément, parce que là, c'est. Je ne sais pas si vous allez rajouter quelque chose pour finir, franchement.
Alors, je ne sais pas, pour finir, moi je m'attendais quand même, j'ai compris que c'était une émission musicale, donc je m'attendais à parler de musique.
Bon, vous nous proposez une autre musique pour finir,
je m'attendais à ce qu'on parle de rumba, je m'attendais, donc bien sûr, à ce qu'on parle de Papa Wemba, je m'attendais à ce qu'on parle d'artistes, de grands artistes contemporains comme Fally Ipupa, voilà, et donc, bon, ben je, c'est promis, je reviendrai pour une autre émission. Mais je vous demande juste, alors peut-être en chanson dédicace, et elle saura à qui, je pense que la personne à qui je l'adresse saura à qui je l'adresse. C'est une chanson d'Abeti Massikini et c'est I Love You.
Buzz FM, la radio bonne humeur. 97.4.
Alors, chers auditeurs de Buzz FM, tous les mardis 14h en rediffusion, dimanche 18h en diffusion, Papa en Abisso, aujourd'hui nous avons l'honneur, nous avons été honorés par la présence de M. Châtaignier, qui n'a pas été seul, qui a été accompagné par Mme Larissa, que nous remercions d'ailleurs. Merci.
Larissa est extraordinaire, formidable.
Merci pour l'accompagnement. Je remercie également l'équipe technique Junior Nalcoma et tous les autres. Donc n'oubliez pas d'aimer nos pages Facebook 97.4 Buzz FM, Facebook, WhatsApp, faites Facebook, Instagram, Twitter et faites-nous toutes vos propositions. Et donc on se retrouve prochainement pour un prochain numéro dans Bapé en Abisso et à très vite.
Ils viennent de partout, ils sont de partout, ils sont chez nous, mais aussi chez eux, parce que certains d'entre eux ont choisi la RDC comme seconde patrie. Ils nous parleront de chez eux en même temps de chez nous.
On les reçoit dans Papa en Abisso tous les dimanches 18h et mardi 14h sur Buzz FM, présenté par Ralph Tchoumbé.